Le journal, présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. Vladimir Poutine félicite Recep Tayyip Erdogan pour sa réélection triomphale en Turquie. En revanche, l'Union européenne critique le déroulement du scrutin. Nous ferons le point avec Pierre Benazé à Bruxelles dans un instant. La crise migratoire, Matteo Salvini était à Tripoli aujourd'hui pour féliciter les gardes-côtes libyens. Le ministre italien de l'Intérieur refuse toujours d'accueillir les bateaux des ONG et leurs centaines de migrants. Mathilde Imberti nous appellera de Rome. Emmanuel Macron rencontre le pape François demain au Vatican. La France catholique tient-elle toujours une place de choix dans le cœur du souverain pontife? Pas vraiment, nous expliquera notre invité Jean-Pierre Denis, directeur de la rédaction du magazine La Vie. La justice s'intéresse officiellement à la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron. Le parquet de Lyon vient d'ouvrir une enquête préliminaire pour détournement de fonds publics. Les explications de Stéphane Robert dans cette édition. Recep Tayyip Erdogan a donc gagné son pari, remporté le double scrutin présidentiel et législatif qu'il a lui-même convoqué le 18 avril dernier en Turquie. Hier, le président turc a été réélu dès le premier tour avec 52,5% des voix. Son principal adversaire, le candidat de centre-gauche Muharrem İnce, se contente de 30,6% des suffrages. Il a reconnu officiellement sa défaite. S'agissant des législatives, l'AKP, le parti d'Erdogan et ses alliés conservent la majorité absolue au Parlement. Recep Tayyip Erdogan a été félicité par Vladimir Poutine, le président russe se voyant dans cette réélection la grande autorité politique de son homologue turc. Le ton est bien différent du côté de l'Union européenne. L'UE émet des doutes sur la sincérité du scrutin. Pierre Benazé à Bruxelles, le nouveau triomphe d'Erdogan suscite un certain embarras.
Oui, effectivement, un embarras certain, même pour les Européens qui n'ont jamais vraiment su sur quel pied danser face à Recep Tayyip Erdogan. Et d'ailleurs, le seul chef de gouvernement européen à lui avoir envoyé ses félicitations pour sa réélection est le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, le trublion de la scène politique européenne. La principale concernée en termes de population turque dans son pays, la chancelière allemande Angela Merkel, s'est contentée de laisser son porte-parole annoncer que l'Allemagne espérait une relation constructive avec Ankara et que les félicitations d'usage suivraient plus tard. En revanche, vous le disiez tout à l'heure, les institutions européennes n'ont pas gardé leur langue dans leur poche. La chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, et le commissaire chargé de l'élargissement ont fait savoir qu'ils estimaient inéquitable la campagne électorale. Pour eux, l'état d'urgence a fait que la campagne a été marquée par des restrictions aux libertés de rassemblement et d'expression, y compris dans les médias. Pour Federica Mogherini, la Turquie ferait bien de corriger d'urgence d'importants manquements aux droits fondamentaux et à l'état de droit.
Pierre Benazé, merci. À noter qu'en France, chez les électeurs turcs ou franco-turcs, Recep Tayyip Erdogan est arrivé largement en tête du scrutin avec près de 64% des suffrages. En deuxième position, on trouve le candidat kurde Selahattin Demirtas qui obtient plus de 19%. C'est désormais une évidence pour enrayer les flux migratoires en provenance d'Afrique et les populistes italiens au pouvoir comptent moins sur l'Europe que sur la Libye. Matteo Salvini, le tout-puissant ministre italien de l'Intérieur, était à Tripoli aujourd'hui pour féliciter les gardes-côtes libyens, car pour le patron de la Ligue, il faut mettre un terme aux opérations de sauvetage des migrants menées par les ONG. Mathilde Imberti nous appelle de Rome.
Une visite éclair à Tripoli, le temps de rappeler une priorité, celle de l'Italie et de la Libye, a déclaré Matteo Salvini. Arrêter les navires des ONG qui, dixit le ministre, participent au trafic d'êtres humains. En marge des rencontres officielles avec le vice-premier ministre libyen et le ministre de l'Intérieur, l'homme fort du gouvernement italien n'a pas hésité à remercier ouvertement les gardes-côtes libyens qui ont pris la main sur les sauvetages en Méditerranée ces derniers jours. La marine libyenne assure désormais la plupart des opérations. Depuis mercredi dernier, elle a récupéré 2000 migrants en mer pour les ramener en Libye, où ils sont emprisonnés et maltraités selon de multiples témoignages. Matteo Salvini, par ailleurs, ne revient pas sur sa décision de fermer les ports italiens. Tandis qu'il clôt sa visite à Tripoli, des centaines de migrants sont dans l'attente d'un port sûr pour débarquer au large de Malte ou de la Sicile, notamment le navire de l'ONG Lifeline, un cas Aquarius Bis. Sur la gestion des flux au départ de l'Afrique, Matteo Salvini revient de Libye avec une proposition concrète qui sera présentée jeudi au Conseil européen, l'ouverture de centres d'accueil et d'identification des migrants au sud de la Libye, à sa frontière externe, une piste à contre-courant de ce que propose la France notamment, qui préférerait des centres fermés en Italie et en Espagne, donc sur les côtes européennes. À distance, le bouillonnant patron de la Ligue a tenu son bras de fer aujourd'hui, et avec les ONG, et avec les partenaires européens de l'Italie.
Mathilde Imberti, correspondante en Italie, est de retour de Tripoli. Matteo Salvini a une nouvelle fois attaqué Emmanuel Macron, le président français, et je cite Salvini, proportionnellement 15 fois plus méchant que le Premier ministre hongrois Viktor Viktor Orban dans son refus de respecter les quotas de migrants au sein de l'Union européenne. La Ligue de Matteo Salvini, qui est sortie renforcée des élections municipales partielles hier en Italie, la coalition de droite dominée par la Ligue a remporté 11 mairies, dont les villes emblématiques de Pise et Sienne, des municipalités détenues depuis des décennies par la gauche italienne. La crise migratoire, il en sera encore question demain au Vatican, lorsque le pape François recevra Emmanuel Macron, le chef de l'État français qui se rendra ensuite à Saint-Jean-de-Latran pour se voir décerner le titre de premier et unique chanoine d'honneur de la basilique romaine, un titre réservé au président français que François Hollande n'avait pas assumé. On va s'intéresser ce soir aux relations complexes entre le pape François et les catholiques français, avec notre invité Jean-Pierre Denis, directeur de la rédaction du magazine La Vie. Bonsoir.
Bonsoir.
Jean-Pierre Denis, on présente souvent la France comme la fille aînée de l'Église. Est-ce que cette expression a encore un sens en 2018 avec le pontificat du pape François ?
Elle a un sens pour les Français qui aiment bien s'en souvenir. Ils aiment bien qu'on ressorte cette expression, du moins les catholiques hein, en France. Je ne suis pas sûr qu'elle ait le même sens ou même qu'elle ait du sens pour le pape François. Au fond, c'est un pape qui s'intéresse assez peu à l'Europe. Les catholiques ont voulu un pape de la mondialisation, un pape du Sud, ils ont eu ce qu'ils voulaient, un pape qui a un autre regard sur le monde, et pour qui l'Europe n'est finalement pas si importante, et dans cette Europe qui est moins importante, eh bien la France occupe une toute petite place. La preuve, il n'est toujours pas venu.
Donc ça veut dire que la France est quelque part banalisée dans le paysage catholique mondial aux yeux du pape ?
La France a perdu de son influence de toute façon au fil des décennies à Rome, avec moins de personnel de très haut niveau. Il y a encore évidemment quelques survivances hein, de ce passé français, mais il est évidemment beaucoup moins fort aujourd'hui. Et puis le catholicisme français est plus en difficulté. Et quand on regarde un petit peu plus près les références intellectuelles du pape François, il y a des références françaises. Mais c'est souvent les jésuites influents dans les années, disons, 60 ou 70 du siècle dernier, ceux qui ont compté dans sa propre formation. On est moins en phase avec la pensée d'aujourd'hui, disons.
Alors ça, c'est ce que l'on peut dire de la vision de la France vue du Vatican. Mais est-ce que le pape est populaire chez les catholiques français ?
Le pape a déstabilisé un certain nombre de catholiques qui étaient, je dirais, plus en phase avec son prédécesseur, le pape Benoît XVI. Il les a déstabilisés parce qu'il semble, d'une certaine façon, parler à l'humanité tout entière par-dessus les corps intermédiaires de l'Église. Donc il a peut-être déstabilisé certains prêtres, voire certains évêques. C'est un homme qui s'adresse directement à l'opinion publique. Peut-être que ça a un lien avec sa formation, son expérience dans un pays, l'Argentine, qui a été marqué par un régime péroniste. Donc il a cet art de s'adresser directement au peuple. Il a cet art d'être, au fond, le super curé. C'est celui qui peut marier une hôtesse de l'air et un steward dans l'avion parce qu'il estime que c'est le bon moment. Donc cette relation directe avec l'opinion publique, avec les catholiques, très universelle, très large, au-delà de l'Église catholique, elle est évidemment parfois un petit peu déstabilisante. Puis il y a un deuxième point qui peut faire débat, là dans l'opinion publique européenne, c'est son discours très très ouvert hein, sur la question des migrations, son refus de mettre des murs et des barrières, et il y a un certain nombre de catholiques qui sont troublés. Mais je dirais qu'il ne faut pas non plus surestimer ce phénomène. Simplement, ce qui est nouveau, c'est que les voix critiques vis-à-vis du pape sont plus comme autrefois les cathos de gauche, mais plutôt aujourd'hui les chrétiens identitaires qui sont mal à l'aise avec ce pontificat. Donc il y a effectivement une sorte de mouvement de balancier. Hier, des cathos de gauche pas forcément très à l'aise à l'époque du pape Jean-Paul II ou de son successeur Benoît XVI, aujourd'hui, dans cette Europe qui est tétanisée par la question des migrations, avec cette sécularisation et cette perte d'influence chrétienne dans la société, une réaction parfois en sens inverse.
Et vous diriez qu'aujourd'hui, les catholiques français sont plutôt majoritairement hostiles à cette volonté d'ouverture aux migrants ?
Non, sûrement pas. Les catholiques en général, alors évidemment, il faut savoir de qui on parle, de quoi on parle quand on dit les catholiques. Est-ce qu'on parle des catholiques pratiquants? Est-ce qu'on parle des personnes qui sont de culture catholique? Est-ce qu'on parle des personnes qui ont été baptisées? Donc, ça change considérablement les choses. Mais si on en reste au niveau des généralités, je dirais que l'opinion publique catholique, avec cette réserve, hein, l'opinion publique catholique, elle est encore très favorable au pape François. On a quand même un pape qui est extrêmement populaire. Je dirais qu'il ne faut pas surestimer ses remarques et ses critiques qui se font entendre plutôt dans un catholicisme plus conservateur, qui était habitué à être plus en phase avec un discours aussi plus, je dirais, plus cadré, plus rassurant. Parce que l'autre facteur, au fond, c'est que ce pape parle de manière spontanée. Il a libéré sa parole, la parole du pape, quitte à faire parfois quelques petites gaffes ou quelques déclarations qui peuvent surprendre. Et il a incité les catholiques à prendre leurs responsabilités. Il les a renvoyés, je dirais, à leur âme et conscience en diminuant la part du discours très cadré, très affirmatif, qui pouvait rassurer certains catholiques, qui était la façon plus habituelle pour les papes de s'exprimer.
Jean-Pierre Denis, directeur de la rédaction du magazine La Vie, merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir. La justice se pose désormais des questions sur le financement de la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron, en l'occurrence le parquet de Lyon, qui vient d'ouvrir une enquête préliminaire pour détournement de fonds publics, financement irrégulier de campagne et abus de biens sociaux. Enquête déclenchée par une plainte émanant d'élus lyonnais du parti Les Républicains. Stéphane Robert, ces élus d'opposition s'interrogent sur l'implication de la ville et de la métropole de Lyon dans la campagne d'Emmanuel Macron. Et à l'époque, le patron de l'agglomération lyonnaise, c'était l'actuel ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb.
Oui, ce sont deux figures de l'opposition à Gérard Collomb à Lyon qui ont déposé plainte. Stéphane Guillan, leader du groupe Les Républicains au conseil municipal, et Philippe Cochet, maire LR d'une commune limitrophe, Caluire. Tous deux estiment que des moyens humains et matériels de la mairie et de la métropole ont été indûment utilisés au profit du futur candidat à la présidence de la République, Emmanuel Macron. Ces deux élus pointent des réceptions, l'une notamment organisée en juin 2016 à l'hôtel de ville de Lyon. Ils sont également visés par cette plainte un meeting qui s'est tenu en septembre 2016 au Palais des Sports, ou encore la location d'une péniche qui aurait donné lieu à une ristourne de plusieurs centaines d'euros. Et puis les plaignants affirment que celui qui était chef de cabinet de Gérard Collomb à l'époque travaillait en réalité à la campagne du candidat Macron. Alors y a-t-il eu utilisation frauduleuse de moyens publics au profit d'activités partisanes, comme il est stipulé dans cette plainte? On verra ce que dira la justice à l'issue de l'enquête, mais à ce stade quand même, il faut dire que, quelles que soient les suites de cette affaire, on ne peut pas ne pas voir dans cette démarche la perspective d'élections municipales qui auront lieu dans 2 ans, en 2020, et le besoin de l'opposition de faire médiatiquement parler d'elle.
Stéphane Robert du service politique de France Culture, merci. On termine ce journal avec la fin programmée d'Autolib à Paris. Le système d'autopartage s'arrêtera définitivement le 31 juillet prochain. Conséquence de la décision du syndicat mixte Autolib de mettre un terme à la concession accordée au groupe Bolloré, l'exploitant du service. Un nouvel épisode dans le conflit qui oppose la mairie de Paris, la maire de Paris, Anne Hidalgo, au groupe de Vincent Bolloré. Les explications de Raphaël Ebenstein.
Les 150 000 abonnés d'Autolib ont été prévenus via un simple courriel envoyé en milieu d'après-midi. Il n'y aura pas d'arrêt brutal du service ce soir et il continuera jusqu'au 31 juillet avec toutefois un gros bémol. Le démontage progressif des 1100 stations est en effet prévu à partir du 2 juillet, donc il y en aura de moins en moins au fil des jours. Les utilisateurs sont d'ailleurs d'ores et déjà invités à ne pas louer de voiture sans avoir réservé au préalable une place dans une station d'arrivée. En guise de dédommagement pour les abonnés à l'année, le mois de juillet sera offert. Il n'y aura évidemment aucun prélèvement après. Cet arrêt progressif du service doit permettre au groupe Bolloré de reclasser dans de bonnes conditions les 254 salariés, souligne le syndicat Autolib. Aucun commentaire en revanche du côté de Bolloré. Quant au contentieux financier entre les deux parties sur le montant du déficit à éponger, il devrait se régler tôt ou tard devant le tribunal administratif, à moins d'un compromis qui semble toutefois très incertain aujourd'hui.
Raphaël Ebenstein. Après le coup de filet dans la mouvance de l'ultra-droite, les gardes à vue des 10 personnes suspectées de préparer des attaques terroristes contre des musulmans se sont poursuivies aujourd'hui, menées dans la nuit de samedi à dimanche par les policiers de la Direction Générale de la Sécurité l'intérieur. Les arrestations se sont déroulées en Corse, en région parisienne et en Charente-Maritime. Les enquêteurs ont retrouvé des fusils, des pistolets et des grenades artisanales lors des perquisitions, selon des sources proches de l'enquête. La météo demain, globalement très ensoleillée dès le matin. Seul bémol, quelques averses possibles l'après-midi sur les Alpes et le relief corse. Les températures minimales de 11 à 21 degrés du nord à la Méditerranée. Les maximales sont en légère hausse, de 22 à 30 degrés en général, jusqu'à 34 degrés dans le sud-ouest. C'est la fin de ce journal, préparé ce soir avec Annie Brault.